Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de communication. L'un des marqueurs de la pandémie en Australie, c'est que dès qu'il y a un foyer épidémique qui apparaît quelque part, il est accompagné immédiatement ou quasiment de conférences de presse quotidiennes organisées par les différents dirigeants politiques, les dirigeants des États notamment. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce mode de communication et ce mode de communication répété est vraiment la manière la plus efficace de communiquer auprès de la population sur cette pandémie. Et pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, on va retrouver Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Grégory.
Alors, on vous connaît bien à SBS, d'habitude on discute plutôt d'affaires européennes avec vous, mais il se trouve que vous êtes également spécialiste de la communication de crise, que par ailleurs vous avez travaillé avec des personnalités politiques en France et en Australie, et donc ça nous semblait plutôt approprié de parler de ce sujet avec vous. Donc merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Du coup, je vous repose la question. Ces conférences de presse quotidiennes, état par état, pour en gros nous donner chaque jour les dernières informations concernant le nombre de cas, éventuellement le nombre de décès ou les ajustements à la marge sur les restrictions appliquées ici ou là, est-ce que tout simplement, c'est un moyen efficace d'informer la population sur cette pandémie?
Merci beaucoup de me recevoir, Grégory. Effectivement, je suis très content de revenir parmi vous et de parler avec SBS de ces problématiques-là. La vraie question en fait, qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces conférences de presse quasi quotidiennes en Australie, est-ce qu'elles font le job finalement? Et donc, si on se pose cette question, le premier élément, c'est de savoir, mais c'est quoi le job, c'est quoi ce serait quoi la vertu de ces conférences de presse? Pour moi, il y a trois différents items qui font la raison d'être de ces conférences de presse, encore une fois, en temps de crise, hein, en temps d'épidémie. D'abord, le premier élément, Grégory, pour moi, c'est le contrôle. Ce qu'on peut appeler le contrôle, ce que les Anglais, en fait, les Anglo-Saxons, appellent avec, je trouve, un mot plus approprié de scrutiny. Et donc c'est vraiment ce fait de contrôler l'information par les décideurs politiques. Le deuxième élément, Grégory, pour moi, c'est la question de responsabilité. Alors encore une fois, responsabilité plus comme les Anglo-Saxons l'entendent, c'est-à-dire responsabilité rendre des comptes, hein, c'est ce qu'ils définissent par accountability. Et le troisième élément, c'est la transparence. On est en temps de crise, on est en pleine pandémie, avec des éléments nouveaux, donc il y a un besoin de transparence sur les nouveaux variants, sur le nombre de cas, sur ce qu'est cette maladie, ce que sont les traitements, etc. Donc ça, pour moi, ce sont les trois éléments à quoi servent ces conférences de presse. J'allais dire, par rapport à ces trois éléments, on a la conférence de presse quotidienne, elle fait le job. C'est-à-dire que les médias, en assistant à ces conférences de presse quotidiennes, en posant des questions et par le fait que ces conférences sont retransmises à la télé pour tout à chacun, elle justifie le fait qu'elles existent. Maintenant, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est, OK, en termes de, encore une fois, de contrôle, de responsabilité, de transparence, on voit bien que ça répond à un besoin, mais est-ce qu'en termes de communication et d'absorption de la communication par le citoyen, est-ce que là, ça fait le job aussi? Et sur cet aspect-là, Grégory, moi, je serais plus sceptique et je pense que ça justifie moins le fait d'avoir des conférences de presse quotidiennes.
Alors, je ne devrais pas donner mon avis, ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste, mais en tant que spectateur et témoin de cette épidémie. Et au bout de 4 mois, ces conférences de presse quotidiennes, moi, je n'arrive plus à les suivre. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Et du coup, la question que je me pose, c'est si la parole était plus rare, est-ce qu'on n'y accorderait pas plus d'importance? Parce que je ne pense pas que l'impression que j'ai moi par rapport à ces conférences de presse quotidiennes soit une opinion unique. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je pense que plus personne ne les regarde, en tout cas un nombre beaucoup plus limité. Et donc voilà, je vous repose la question à vous, le communicant. Ne vaudrait-il pas mieux, par exemple, ne prendre la parole qu'une fois par semaine ou quand on a des choses vraiment importantes à dire, si j'ose dire, un changement majeur sur le déroulé du confinement ou des choses comme ça, plutôt que de parler tous les jours, sachant que certains jours, à part la météo du nombre de cas, il n'y a pas grand-chose à annoncer, quoi.
Alors, je crois encore une fois, Grégory, sur cet aspect-là, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que pour les journalistes, c'est-à-dire que pour ceux qui analysent l'information, la restituent et permettent aux citoyens d'être informés, je pense que le fait d'avoir un contact quotidien avec le décideur politique. Mais d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, parce que la question, c'est de savoir aussi que c'est au décideur de politique de mener ces conférences de presse. Mais je crois que du point de vue de l'exercice journalistique et du rôle du journaliste dans nos sociétés modernes, je crois que c'est important qu'il y ait cet accès à l'information. Mais là où je vous rejoins, c'est que effectivement, pour le citoyen lambda, qui en fait va être beaucoup plus touché en termes de nombre, hein, parce qu'il y a plus de citoyens que de journalistes, effectivement, là, l'exercice de la conférence de presse quotidienne perd de sa raison d'être. Au début, ce qui se passait, c'est que il y avait ce qu'on appelle en communication un effet de feuilletonnage même, c'est-à-dire que comme on avait un message important à dire en temps de Covid, de pandémie, de message de santé publique, le fait de revenir chaque jour, le fait de revenir à une heure précise, le fait d'avoir un ou deux interlocuteurs identifiés permettait en fait de créer un canal de communication et de vraiment maîtriser le message nouveau pour tout citoyen qu'il était important de retenir. Donc ça, c'était l'effet du feuilleton au début. Là où je pense que personne n'a anticipé que ça allait durer 18 mois, exemple de Melbourne et de ses conférences de presse quasi quotidiennes, c'est que l'effet feuilleton, il peut avoir une efficacité quelques semaines, quelques mois, mais vous l'avez bien dit, au bout de 18 mois, en fait, comme tout feuilleton, qu'il soit politique ou autre, on s'en lasse, et c'est là que ça perd en efficacité, et où je vous rejoins, effectivement, la rareté de la parole politique, elle ferait plus sens sur la longueur. L'autre aussi aspect, Grégory, pour moi, qui est très important, c'est que moi, j'aime bien reprendre l'ancien slogan de mai 68, « D'où tu parles, camarade ?»« D'où parles-tu, camarade ?» Et en fait, c'est là où on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas en Australie, c'est-à-dire qu'on avait des hommes politiques qui faisaient en fait le boulot d'experts. Et on avait des experts qui étaient relégués à commenter ce que disait l'homme politique. Je m'explique. C'est au bout d'un moment, quand on a juste une mise à jour du nombre de chiffres, une mise à jour des courbes, une mise à jour en fait, j'allais dire très administrative, ce n'était pas forcément à l'homme politique, ce n'était pas forcément au premier du Victoria de faire cette mise à jour. Parce que ce n'est pas là où on l'attend, ce n'est pas là où on aimerait le voir parler. On aimerait que l'homme politique, lui, il trace des perspectives et qu'il mette en musique des données factuelles. Alors que pour le coup, l'expert, le chief medical officer, lui, on l'attend effectivement pour qu'il décrive les données, les analyses qu'il a reçues, sans en faire une interprétation politique. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a une grande erreur, notamment dans le Victoria de la part du premier Daniel Andrews, c'est qu'au bout d'un moment, sa parole n'avait plus aucun poids politique parce qu'il se contentait en fait de faire le travail d'un chief medical officer, d'un expert, et pas d'un leader politique avec une vision capable de donner, de tracer une feuille de route, de donner un espoir pour sa population, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche principalement dans le Victoria.
La deuxième question, alors, est-ce que ça c'est lié au fait que l'Australie, jusqu'à très récemment, suivait une stratégie zéro Covid ? C'est que dans ses conférences de presse et dans toute la communication gouvernementale au sens large, le maître étalon de la pandémie, c'est le nombre de cas quotidiens. Et ça aussi, ça m'interroge parce que, par exemple, en France, au début, on communiquait également autour de ce chiffre, mais ça a été depuis complètement abandonné. Il est encore possible de le trouver, mais s'il y a communication de la part des autorités sur l'avancée de la pandémie, ça va être plutôt sur le taux d'incidence ou le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en unité de soins intensifs, mais le nombre de cas en lui-même n'est plus du tout utilisé pour parler de cette pandémie. Pourquoi est-ce qu'en Australie, on continue à le faire? Et est-ce que, toujours d'un point de vue de communication, hein, ni vous ni moi n'êtes scientifique ou médecin, est-ce que c'est vraiment le chiffre le plus important à retenir?
Alors là, Véronique, je pense que vous touchez un point très important. C'est que, en fait, l'Australie avait pris dès le début une décision politique, pour le coup, mais traduite en santé publique, d'éradiquer le Covid. De faire une stratégie zéro cas. Et donc, en fait, on comprenait au début que l'exercice de la conférence de presse quotidienne, c'était pour montrer l'évolution et la mise en œuvre de cette stratégie et pour donner espoir à la population qu'on est en train d'y arriver. C'est pour ça qu'au début, et ça paraissait d'ailleurs assez fantasmagorique pour des amis français, c'était que des conférences de presse étaient organisées où on disait aujourd'hui les chiffres ont augmenté de 50%, on est passé de 6 cas à 9 cas parce qu'on était vraiment dans cet objectif là, donc il y avait une cohérence finalement avec l'objet de la conférence de presse. Ce qui s'est passé cet été européen, donc au mois de juillet-août, ici en Australie, c'est qu'on est passé, finalement, on a abandonné cette stratégie zéro Covid. On pourra revenir sur ce point-là, mais on a abandonné parce que c'est pas possible, parce que l'accélération de la vaccination fait que on pourra réouvrir quand même avec quelques cas de Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que à Melbourne, et c'est là où c'est aussi un choix politique, et on va certainement y revenir, mais à Melbourne, on a continué avec ces conférences de presse quotidiennes, alors que dès la mi-septembre, alors que les chiffres étaient en train d'exploser en termes de nombre de cas, l'ancienne première du New South Wales a décidé d'arrêter ses exercices de conférences de presse quotidiennes. Et je crois que c'était un signal assez fort, parce que c'était montré que même au cœur de la pandémie, au moment où les cas encore explosaient à Sydney, faire une conférence de presse quotidienne pour commenter ces chiffres-là n'était plus en adéquation avec les objectifs globaux pour lutter contre la pandémie. Et donc, vous voyez, c'est là pour répondre à votre question que, en fait, la conférence de presse quotidienne, elle a aussi un sens si son objet est aligné avec ce qu'on vise. Et je crois que c'est là aussi encore une grande différence entre le Victoria et le New South Wales, où dans le Victoria, on continue encore à commenter finalement des chiffres, comme vous l'avez mentionné, qui n'ont plus tellement de sens en termes même de stratégie globale par rapport à la gestion de la pandémie.
Alors, c'est vrai, effectivement, Gladys Berger-Clion, peu de temps avant qu'elle finalement soit contrainte de démissionner, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la pandémie d'ailleurs, mais elle avait fait part de ce souhait d'arrêter l'exercice des conférences de presse quotidiennes, et ça avait été extrêmement mal reçu, alors que peut-être qu'elle avait raison au final. Pour continuer à être entendue, il fallait arrêter de parler, en fait.
Je pense qu'en tout cas, elle a eu raison en termes de morale des troupes. Le fait pour les citoyens de ne plus, encore une fois, vivre dans ce feuilleton où on attend tous les jours la fin de matinée pour savoir quel va être les sujets de la conférence de presse, c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique pour les habitants de Sydney et du New South Wales. L'autre chose aussi, c'est que un des risques, c'est que au bout d'un moment, l'homme politique, s'il n'a plus rien à dire, il est tenté en fait de transformer en tribune politique cette conférence de presse quotidienne. C'est aussi ce qui se passe dans le Victoria, c'est-à-dire que vous avez les partisans de Daniel Andrews qui trouvent que finalement c'est quelqu'un qui a de la force, de la détermination, de l'engagement, mais finalement qui vont au-delà de cette histoire de gestion de la pandémie. Et vous avez d'autres personnes qui en fait critiquent l'utilisation de cette conférence de presse quotidienne pour en faire une tribune politique pour traiter d'autres sujets. Et donc c'est aussi le risque en termes de santé publique et de communication de crise, qui sont quand même des moments avec beaucoup de tensions, des moments aussi nouveaux, si on prend l'exemple du Covid-19, où vous avez finalement le message de santé publique qui va être moins entendu que, j'allais dire, le classique jeu politique lors d'un exercice oral ou d'une conférence de presse. Et je crois que c'est aussi un risque qu'il faut pointer avec ces exercices de conférences de presse quotidiennes, c'est qu'on peut passer à côté de mauvaises interprétations. Et on l'a vu, par exemple, dans le Victoria, on avait eu l'exemple du Chief Health Officer, Brett Sutton, qui avait expliqué à un moment que le variant Delta rendait les enfants encore plus malades, qui avait été après démenti. Et c'est aussi le problème de ces exercices de conférences de presse quotidiennes, c'est que si la confiance est rompue à un moment, et quand vous êtes quotidiennement devant la presse, les journalistes, ça peut arriver de faire des erreurs, même de manière non intentionnelle.
On augmente mathématiquement les chances de dire des bêtises, en tout cas.
Exactement. Ouais. Et le problème, c'est un problème réputationnel qui est encore plus vrai, plus exacerbé en communication de crise, c'est que la réputation, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire. Par contre, une fois que le lien est rompu, que la confiance est un petit peu érodée, on met beaucoup plus de temps à la recouvrer. Et c'est aussi le risque de faire des conférences de presse quotidiennes sur des sujets de santé publique, c'est que si vous dites des choses qui peuvent s'avérer fausses parce qu'il y a une erreur, parce que vous avez pris une étude finalement qui se trouve et pas si scientifique que ça, parce que vous avez parlé de chiffres, etc., après vous pouvez toujours courir après. Et le problème, c'est pas tellement qu'on ne croit plus le Chief Health Officer, le problème c'est que quand vous avez un objectif de santé publique, encore une fois, de vacciner votre population à 70%, puis après 80% de double dose avant de tout réouvrir. Vous avez des antivax que vous, de toute façon, ne convertirez jamais, mais vous avez aussi des hésitants qui vont se servir de toutes ces aspérités, de toutes ces erreurs qui ont été faites dans l'exercice de conférence de presse quotidienne pour vous dire pourquoi est-ce que je croirais là l'homme politique ou le chief health officer alors qu'on s'est trompé sur l'analyse du variant Delta, alors qu'on s'est trompé sur telle information médicale. Donc c'est aussi un risque, j'allais dire, au-delà du risque politique, c'est même un risque de santé publique que peuvent faire courir ces exercices de conférences de presse quotidiennes.
Très bien, ben merci beaucoup Nathanaël pour ces éléments d'analyse. À très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup Grégory.